Bonjour et bienvenue à l'École des Savoirs. Nous sommes ensemble chaque semaine pour une heure, avec une pause pour le journal. En première partie, les infos pratiques de l'éducation avec les chroniqueuses Anna Lutzky pour parler de l'enseignement à distance. Elle nous présentera une formation assez incroyable pour apprendre à composer de la musique à distance. Amélie Lignard pour les bourses d'études nous parlera de la Fondation Soros. Et enfin, bien sûr, vos témoignages sur l'école avec une seule adresse à retenir, école@rfi.fr. Et en deuxième partie d'émission après le journal, un débat sur la violence à l'école en France, au Mali et au Brésil. Trois situations très différentes. Bienvenue chez vous, c'est l'École des Savoirs. C'est la chronique d'Anna Lutzky. Bonjour Anna.
Bonjour.
Chaque semaine, une nouvelle trouvaille. Qu'est-ce qu'on écoute là en ce moment?
Alors Emmanuel, ce qu'on écoute, c'est le travail d'un élève qui a suivi des cours dans une école de musique à distance. Il a fait du contrepoint, c'est-à-dire qu'il a appris à écrire plusieurs mélodies simultanées, comme on peut l'entendre. Et il s'est basé sur le mouvement d'une polonaise en mi majeur de Jean-Sébastien Bach.
Cette semaine, donc, appel à tous les musiciens francophones, une formation à distance pour apprendre à composer de la musique. Ça, je ne savais pas que ça existait.
Et oui, Emmanuel, j'essaie de vous surprendre chaque semaine. Et c'est là qu'on se rend compte que les chansons d'un groupe qu'on a écouté il y a quelques semaines, comme Tout nu sur la plage, des chansons débiles du groupe canadien Trois Accords, ne sont pas si simples à composer et comportent plus que trois accords. Et avec cette école, qui a été fondée par un compositeur et sa femme, elle s'appelle Polyphonie, vous allez pouvoir vous initier à la composition musicale, à l'écriture, avec une méthode progressive, particulière.
Et sérieuse. Sérieuse.
Très sérieuse, à distance.
Donc, il faut être musicien à la base, mais pas forcément bon en solfège.
C'est ça qui est bien, que j'ai trouvé très bien, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir fait 10 ans de conservatoire quand vous étiez jeune pour savoir écrire de la musique. Là, dans les élèves de l'école, on a des guitaristes qui jouent sur des tablatures, c'est-à-dire que c'est même pas des partitions avec des vraies notes. Et ils débutent en écriture et ils vont très loin. Par exemple, il y a un élève en Algérie, à Blida, il s'appelle Salim Dada. Il était en niveau 3, il y a 4 niveau dans cette école, il a eu un prix de musique symphonique à Berlin et sa partition a été jouée par une université à Berlin.
Donc c'est en plus une formation qui est reconnue. Comment ça se passe à distance?
À distance, alors, on vous envoie un CD-ROM de cours. L'avantage du CD-ROM, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller tout le temps au cyber. Et puis, vous allez passer beaucoup de temps avec votre papier et votre crayon à inventer des mélodies. Ça va être une grosse partie du travail. Et par exemple, il y a un apprenant au Sénégal qui est dans la brousse et qui se débrouille quand même. Il envoie sa partition de musique à sa femme qui travaille à Dakar. Et elle le scanne et l'envoie au professeur par mail.
Ah oui, donc elle fait ça le matin et puis...
Et puis voilà, il faut l'envoyer avant 9h et vous recevez vos corrections le soir. Et l'apprentissage, il est tout autant dans le cours que dans ses corrections personnalisées au fil du temps.
Ouais, c'est formidable. Alors, on est obligé de faire de la musique classique avec cette école parce que là, on a entendu du Bach.
Oui, c'est vrai que ça peut sembler parfois pas très fun. Eh bien non, ça va vous servir pour tout. Par exemple, vous savez que le blues américain, c'est basé sur la musique africaine, mais aussi sur la musique traditionnelle irlandaise qui est elle-même basée sur la musique occidentale. On a le raï en Algérie qui est basé sur des accords classiques. Le jazz a été créé parce que les pianistes écoutaient Debussy ou Ravel. Donc tout ça pour vous dire que cette formation, elle vous donne toutes les bases pour comprendre la musique et l'appliquer à vos besoins. Ça peut être écrire des pièces pour vos élèves si vous êtes professeur de musique. Si vous écrivez des chansons, ça va être savoir les arranger pour votre groupe. Ou alors tout simplement comprendre la musique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir connaître un peu toutes les musiques sur la planète. Il y a 100 ans, on n'avait pas cette chance. Et il faut une bonne formation pour s'y retrouver.
Donc on revient aux origines et à de la musique classique. Combien ça coûte cette formation à distance de composition musicale?
Alors ça coûte 1000 euros pour chaque niveau. Il y en a 4, ça dure environ 5 ans. Mais ils ont mis en place un tarif réduit de 600 euros pour les pays en développement. Et c'est intéressant de voir comment ils l'ont fait. C'est parce qu'ils ont discuté avec une élève en Algérie de son niveau de vie et de ses revenus. Donc ça vous montre un peu l'ambiance familiale de cette école. Vraiment, ils sont là pour vous, quoi.
Il y a combien d'élèves dans cette formation à distance?
Alors ils sont 80, donc ça va, c'est assez réduit.
Et tous disséminés, donc dans le monde entier.
Oui, il y en a même au Groenland, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a au Japon, et puis en Afrique, il y en a 5 ou 6. Il y a un élève qui fait partie de l'orchestre militaire en Côte d'Ivoire, il y en a un autre qui est organiste dans une église, et ce que me disait le professeur, c'est que les élèves en Afrique sont très débrouillards, que leur travail est très soigné et qu'ils sont très motivés.
Et si on n'a absolument pas d'argent, ça veut dire que c'est pas pour nous, cette formation de composition musicale à distance?
Non, ils ont pensé à vous également. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez quand même en profiter parce que Polyphonie fait tous les mois un magazine en ligne, accessible à tous, gratuit et très bien fait.
Ah ben voilà une bonne nouvelle. Merci beaucoup. On va donner l'adresse internet de Polyphonie, du site.
Alors c'est www.polyphonie.fr.
Merci Anna. À suivre des bourses d'études avec Amélie Niard.
L'École des Savoirs, Emmanuel Bastide.
Amélie Niard, tous nos auditeurs vous écrivent pour vous demander des moyens financiers. Du cash, du cash, du cash. Bon. Alors vous faites ce que vous pouvez. Cette semaine, vous avez trouvé une bourse un petit peu particulière, la bourse Open Society Fellowship de la fondation Soros, du nom de George Soros, qui est ce célèbre homme d'affaires américain d'origine hongroise. Et c'est une bourse qui finance des projets en faveur de la démocratie dans des pays en transition ou en développement. Donc oui, il ne s'agit pas d'étudier.
Et non, attention, ce n'est pas une bourse d'études. Vous ne pouvez pas vous servir de l'argent de cette bourse pour financer votre inscription à la fac ou dans une école. D'ailleurs, ces bourses sont réservées à des gens qui travaillent déjà et qui agissent dans leur travail pour une plus grande ouverture démocratique dans leur pays, soit en informant, soit en créant le débat. Donc c'est une bourse qui peut intéresser les journalistes, les chercheurs universitaires, les écrivains, les gens qui travaillent dans des ONG ou même des politiciens, à condition qu'ils n'occupent pas de poste gouvernemental au moment où ils demandent la bourse.
Alors la bourse Open Society peut financer toutes sortes de projets, mais il faut déjà être expérimenté, d'après ce que je comprends, pour déposer sa candidature.
Oui, il ne faut pas forcément être connu, mais il faut être reconnu dans sa profession. Et ça, ça prend quand même du temps. Par exemple, si vous êtes journaliste ou chercheur, il faut que vous ayez déjà publié des articles ou des livres qui font référence. Alors par contre, il y a plein de types de projets qui peuvent être retenus pour cette bourse. Ça peut être un livre, une série d'articles de presse, un site internet, une campagne d'information, la création d'une ONG, un film documentaire ou encore une exposition de photos. D'une manière générale, ce qui intéresse la Fondation Soros, ce sont les projets novateurs qui lancent de nouvelles idées, qui créent de nouveaux débats. Donc le but de cette bourse, c'est de vous permettre de faire une pause d'un an dans votre carrière pour travailler sur votre idée à plein temps et puis pour voir si vous pouvez la réaliser et comment. Par exemple, il y a un Biélorusse en ce moment qui bénéficie d'une bourse de la Fondation Soros. Ça lui permet d'écrire un livre sur le rôle d'Internet dans la démocratie de pays comme la Chine, l'Égypte ou la Russie.
Et il est biélorusse, donc il a eu la bourse. Alors cette bourse ne couvre que certains aspects du projet, c'est-à-dire qu'on vous aide à concevoir votre projet, mais pas forcément à le concrétiser, c'est ça. En fait, on vous dédommage du temps que vous passez, vous n'êtes pas obligé de travailler pendant ce temps.
C'est un peu ça, et selon les projets, il y a des conditions précises qui sont assez strictes, vous avez tout ça sur le site. Alors par exemple, si vous voulez réaliser un film documentaire, la bourse pourra couvrir vos frais de recherche avant tournage ou les frais de post-production, mais elle ne pourra pas servir à payer les frais du tournage proprement dit. C'est la même chose pour une campagne d'information ou la création d'une ONG. La bourse sert à remplacer votre salaire pendant un an pour que vous puissiez donc travailler à temps plein
après,
là-dessus.
Il faut trouver des moyens pour monter le projet en lui-même.
Vous ne pouvez pas utiliser l'argent de la bourse pour payer le local de l'ONG ou pour acheter les banderoles pour votre campagne d'information.
Une autre particularité de ces bourses de la Fondation Soros, c'est qu'il n'y a aucune date limite. Vous pouvez postuler n'importe quand dans l'année et il y a plusieurs, je dirais pas tirages au sort,
il y a plusieurs cycles de recrutement, on va dire. En fait, il y a un formulaire en ligne à remplir sur le site internet, donc, et la fondation attribue les bourses tous les 3 à 4 mois. Les premiers boursiers ont été désignés justement il y a quelques mois. La deuxième sélection, elle a été annoncée il y a seulement quelques jours. Et les prochains boursiers seront sélectionnés au début de l'année 2009. Donc le nombre de bourses finalement varie à chaque session de recrutement. Et le montant des bourses, d'ailleurs, lui non plus, n'est pas fixe. Ça dépend du pays dans lequel vous travaillez pendant l'année où vous touchez la bourse.
Alors si votre projet le nécessite, la bourse peut couvrir vos frais de déplacement à l'étranger, c'est-à-dire que là, on peut être amené à faire des recherches.
Voilà, alors la Fondation Soros a déjà créé plusieurs instituts de recherche sur tous les continents, et si vos recherches le nécessitent, vous pouvez être accueilli dans l'un de ces instituts pour mener vos recherches. Mais c'est pas obligatoire, en fait, ça dépend vraiment de votre projet.
Donc toutes les informations sur l'Open Society Fellowship sont sur Internet, sur le site www.soros, alors Soros, ça s'écrit S-O-R-O-S, parce que vous êtes nombreux à me dire que je n'épelle pas les noms propres, .org, www.soros.org, une adresse que vous retrouverez bien sûr chez nous à la maison, www.rfi.fr, et vous cliquez sur la radio et ensuite sur l'École des Savoirs. Merci Amélie. À suivre maintenant l'école chez vous, vos témoignages à l'École des Savoirs, enfin après cette chanson.
Hey, Sénégal, hey, Sénégal.
De vos études, une seule adresse à retenir, école@rfi.fr. Vous nous envoyez un message électronique. Nous sommes en ligne avec Marcel. Bonjour Marcel.
Bonjour Emmanuel.
Marcel, vous êtes étudiant à Douala ?
Oui, je suis étudiant à Douala.
Et vous nous avez écrit parce que vous voulez nous raconter vos galères. Vous avez pas mal de courage pour continuer vos études parce que vous essayez aussi de gagner votre vie en même temps.
Oui, vous savez Emmanuel, ici En Afrique, ce n'est pas facile de vivre sous la protection des parents en termes financiers. Il est parfois habituel pour nous de faire un peu des petits jobs afin de soutenir nos études. Et là, parce que j'avais besoin d'obtenir ma maîtrise tout en travaillant. Là, quand je me suis inscrit à l'université, tous les jours, il y avait des opérations qu'il fallait faire au sein de l'université. L'université nous appelait de venir faire des tests médicaux. On ne tenait pas compte des personnes qui ont des emplois. C'est-à-dire que ceux qui ont des emplois et ceux qui travaillent en plein temps sont confondus. Et j'ai laissé mon emploi à tout moment, j'étais à l'université. Et puis, mon patron était déjà très, très fâché de moi. Et même pour composer, vous voyez que même pour composer, on programme les examens. On vient pour les évaluations, on programme pour une semaine. Quand tu viens pour composer, le jour de composition, on te dit non, on en envoie la semaine prochaine. Et cependant, au sein de l'entreprise, j'avais déjà fait une permission de sortie. Oui. Et là, quand je rentre, je suis obligé de leur dire que bon, vous voyez, j'ai pris du 14 au 20, maintenant c'est du 20 au 25. Et le patron, lui, il est déjà farouche. Et c'est comme ça que moi, je me suis fait virer dans une entreprise ici à Douala.
Mais Marcel, est-ce que vous êtes nombreux à travailler à temps plein pour payer vos études à l'université?
Je vous assure, nous sommes nombreux. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont des petits jobs et qui aimeraient également aller à l'école. Mais on n'a pas de choix, c'est-à-dire que la méthode de fonctionnement de l'université n'est pas favorable à ce qu'on puisse rejoindre un emploi.
Et alors, finalement, vous avez eu vos examens?
Oui, Dieu merci. J'ai eu ma maîtrise en une seule année, je n'ai pas repris, je n'ai pas échoué, mais je suis quand même allé au rattrapage à l'été. Parce que j'ai été vraiment bouleversé, j'ai été amené à faire un choix, mais le choix était qu'on m'a viré. Je ne pouvais que me concentrer, me replier sur mes études. Mais j'ai eu... Bon, là, maintenant, bien après, grâce à Dieu, j'ai eu un autre emploi. Et cette année, je suis confronté à la même situation. Je veux rentrer pour obtenir mon Master 2. Mais là, quand je rentre à l'université pour m'inscrire, rien que pour s'inscrire, c'est tout un problème, Emmanuel.
Oui, il faut prendre des jours et des jours de congé, c'est ça.
Oui, parfait.
Donc, il faut un patron très compréhensif.
Justement, Emmanuel. Parce que s'inscrire, il y a toute une méthode. Il faut remplir les fiches, il faut aller à la banque verser de l'argent, il faut venir faire des queues. Et si tu dois répondre aux besoins de l'entreprise, c'est frustrant. Parce que nous, les jeunes, on ne veut pas toujours rester là parce qu'on a eu des parents pauvres et finir dans la galère. Non, nous aspirons aussi à être des gens qui auront des postes de responsabilité dans les entreprises.
Marcel, alors finalement, votre vie quotidienne, c'est de jongler en permanence entre les exigences de votre patron. Là, qu'est-ce que vous faites comme boulot aujourd'hui à plein temps?
Emmanuel, vous parlez de jongler comme si vous savez. Je vous dis jongler. Là, assez pour aller composer, je vous assure que parfois, j'ai décrété des maladies pour aller composer.
Vous dites que vous êtes malade à votre patron pour aller passer vos examens, c'est ça?
Oui, pour aller passer mes examens, parfois, j'ai décrété des maladies.
Qu'est-ce que vous avez trouvé comme travail cette année, Marcel?
Voilà, je suis en fait dans une entreprise maritime, j'ai délivré des bons à délivrer pour aller faire des retraits au terminal à conteneur du port autonome de Douala. Et je suis là-bas, oui, j'ai ce poste-là, et je suis là de 7h30 jusqu'à 18h, ce n'est pas évident, 7h30 à 18h.
Et le soir, vous rentrez?
Oui, le soir, je rentre à la maison, je prends les cours à mes camarades qui ont copié à l'université, j'essaie de photocopier, je les lis. Mais je n'ai pas l'obligation d'assister aux cours.
Donc, comment vous faites, Marcel, pour réviser vos cours, des cours auxquels vous n'avez jamais assisté?
Voilà, je suis sur le net, je lis, j'achète des documents, je les lis, et je me rapproche des camarades qui ont assisté aux cours en plein temps. Parfois, je leur donne de l'argent, ils m'expliquent normalement, et puis c'est comme ça que je fais pour m'en sortir.
Ouais, la débrouille. Bah, bravo, en tout cas, vous avez beaucoup de mérite, Marcel.
Merci beaucoup, Emmanuel.
On vous souhaite bon vent et puis surtout beaucoup de succès à vos examens. Vous nous tiendrez au courant, hein?
Oui, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant, Emmanuel.
Bonne chance et continuez comme ça, même si c'est dur. Vous le méritez.
Merci, Emmanuel. Merci pour l'appel. Merci.
Au revoir. L'École des Savoirs, nous revenons juste après le journal. Trois chercheurs de terrain nous parleront de la violence à l'école en France, au Mali et au Brésil, loin des tueries spectaculaires aux États-Unis. Nous parlerons de cette violence quotidienne que l'on croit fatale, inévitable, mais finalement de plus en plus invivable pour ceux qui vivent dans l'école. Rendez-vous dans 10 minutes. Restez avec nous.